Podcast.
Somme Cliché, une enquête sur la disparition du rock'n'roll. Lue par Pierre Mikhailov sur Rectangle. Don't it make you believe that something's gonna have to happen soon? Oh baby, all through the night. Junkies. Avant-propos. Bande-son. All Through the Night par Lou Reed. Au début de la décennie 80, Louis de Prestige, un ex-punk reconverti en chanteur à grosse voix rincée au défoliant, résume bien la situation. Le monde est rock. C'est vrai que 30 ans après avoir été révélé au grand public nord-américain, ce rythme binaire, qui semble si facile à reproduire au premier abord, a achevé de conquérir le monde. Il est désormais la référence culturelle commune des 15-35 ans, répartie sur les 5 continents. Même au cœur de ce que l'on appelle encore le tiers-monde, on délaisse rythmes et instruments traditionnels au profit d'un backbeat sans fioritures et de guitares japonaises au vernis rutilant. On murmure même qu'au-delà de cet inquiétant et mystérieux rideau de fer, des cassettes circulent sous le manteau et que des groupes se forment. Et dans cette partie du monde, qui inventa la carte de crédit et le réfrigérateur, le rock est tout simplement tendance. Les publicitaires l'utilisent pour vendre des yaourts à boire et des chenifis. Les producteurs hollywoodiens, d'habitude si frileux, financent des films rock à tour de bras. Les chanteurs ringards et les politiciens en campagne confirment qu'ils en écoutent un peu. Les émissions littéraires commencent timidement à inviter des journalistes de la presse spécialisée qui publient des monographies consacrées à des rockstars. Tout magazine sérieux se doit de publier un supplément annuel qu'il baptisera Spécial Rock. Et, comme si cela ne suffisait pas, un compositeur astucieux décrit une certaine rock'n'roll attitude pour relancer la carrière de notre premier chanteur national. Nous avons franchi le point de non-retour quand ses enfants sont entrés dans le paysage audiovisuel par la grande porte. Désormais, le rock, porte-voix de la rébellion, n'était plus. En fait, notre rock'n'roll s'accommodait mieux de l'écrit et de la place qu'il occupait au sein de la culture underground. En devenant accessible à tous, il perdait sa raison d'être. Géré, comme n'importe quelle autre branche de l'industrie du spectacle, par des managers conscients de son importance économique et traité avec bienveillance par les journalistes bien-pensants en raison de sa place dans l'histoire des cultures populaires, il était devenu la négation de ce qu'il avait signifié un jour. De That's Alright à God Save the Queen, le rock avait été révélé au grand public par des artistes qui s'en foutaient. Vous pouviez faire chanter à Elvis des cantiques de Noël, des chansons country, des ballades sirupeuses, et même parfois du rock'n'roll. Cela lui était totalement indifférent. Il avait le don. Johnny Rotten haïssait les compositions de Glenn Matlock, pourtant, en y ajoutant ses mots, il les a transformées en classiques. Quant à Sid Vicious, autre image pieuse de l'Académie du Stupre, a-t-il jamais compris ce qui se passait autour de lui? Peu importe au fond. Car prendre la pause suffisait, et suffit encore, pour mériter l'appellation contrôlée « rocker ». Jambes écartées, pantalon de cuir, cheveux gominés, guitare en bandoulière et rictus méchant. Sur certains clichés, un groupe comme Clash semble évoluer au milieu d'un décor de carton-pâte qui se voudrait la reconstitution idéale d'une mythique rue londonienne. Cela a fini par mettre la puce à l'oreille aux chanteurs de variété les plus conservateurs qui se rallièrent eux aussi à l'imagerie jeunesse délinquante. Bien sûr, ils ne savaient pas vraiment choisir leur cuir et, pour ce qui était des coupes de cheveux, c'est dire s'il était temps de passer à autre chose. Pour ceux qui cherchaient le frisson, et d'abandonner au grand public cette poignée de clichés à laquelle se résumait désormais le rock'n'roll. Le rocker était devenu un personnage sympathique qui arpentait les spots publicitaires et les téléfilms, qui raccompagnait votre fille à l'heure prévue quand il l'invitait au cinéma, et qui n'aurait jamais songé à égratigner la peinture de votre voiture avec ce cran d'arrêt qu'il ne conservait que pour le folklore. Une poignée de clichés, c'est ce que représente le rock'n'roll pour le grand public et pour ceux qui sont nés après 1980. Une série de postures, une galerie de stéréotypes que nous avons tour à tour expérimentés au cours d'une adolescence turbulente. Vince Taylor, Brian Ferry, David Bowie, Richard Hell, Iggy Pop, Bo Diddley. Le rock'n'roll n'est qu'une longue série de pauses, une accumulation de codes inventés ou détournés par des personnages hauts en couleur, souvent cocasses. Le rock'n'roll n'est que cliché. L'ultime dépositaire de l'image du rocker fut pendant longtemps Keith Richards, comme en atteste une photo en noir et blanc parue dans Rock'n'Folk en août 78, où il apparaissait décharné et dangereux. Longtemps punaisé sur le mur de ma chambre, cet exemple observé quotidiennement me rappelait la distance à parcourir pour ressembler à quelque chose. Suivirent deux décennies où chacun s'amusa avec ce qu'il avait à sa disposition. Des remixes, parfois audacieux, des instruments électroniques assemblés en République populaire de Chine, des drogues inédites, d'étranges vêtements et de nouvelles danses. Jusqu'à ce jour d'août 2003, où j'allais voir les Black Ribbon Motorcycle Club au nouveau casino. Je découvris qu'après tout ce temps, le rock'n'roll était toujours vivant et qu'il était joué par des garçons qui avaient repris contact avec la rue, avec la réalité. Je rentrais chez moi et décidai d'allumer ce vieil ordinateur qui traînait dans la poussière. Tout a commencé comme ça, avec deux index maladroits et un clavier rétif. Je me souviens de l'époque où il m'allait encore, grogne Sparco, en luttant pour entrer dans son pantalon. « Rappelle-moi pourquoi nous faisons ça ?» demande-t-il à Lee. « Nous le faisons, Sparco, pour la gloire. » La gloire et ce putain d'amusement sans complication. Rien d'autre ? L'argent, bien sûr, ne fait pas de mal, avoue Lee en se dirigeant vers la scène. « Bien, » ajoute-t-il. « Accomplissons ce pourquoi nous sommes venus. » Et ensuite, nous pourrons aller nous en mettre une sérieuse. Propos échangés entre Lee Brillow et Sparco de Dr. Feelgood et rapportés par Alan Jones. Première partie, l'âge de l'innocence. Ménestrel sous benzédrine. Cliché 1. La redneck attitude. Bande son, Live in a Song par les Knights. On the radio, répète le chanteur avec insistance. La découverte du rock'n'roll, pour chacun de nous, commence par la radio. Voir la description que livre Lou Reed de sa découverte par Jenny, 5 ans, qui appuyant une fois de plus sur l'interrupteur de la radio familiale découvre, en lieu et place du rien du tout, une station new-yorkaise qui diffuse cette fun music. La célébration de cette initiation par voix d'onde n'a pas cessé depuis lors. Y compris en France, où on emploie parfois pour ce faire une langue proche de l'anglais. J'ai ce disque, celui d'un groupe modeste, un de ceux qui n'enregistrèrent en tout et pour tout qu'un single. Un groupe essentiel car exemplaire par la banalité de son parcours. Leur répertoire ne compte qu'une bonne chanson. Et encore, celle-ci n'est-elle qu'en partie aboutie. Trop d'indulgence dans l'écriture. Peut-être l'auteur, après avoir tout donné, s'est-il écroulé, épuisé, incapable de seulement se relire. En témoigne la structure lâche de la chanson, qui manque de laisser se perdre notre intérêt en route. Et ce n'est pas cette prise de son sans relief qui viendrait le relancer. Et pourtant, le charme opère. Le label qui a produit ce disque est un de ceux qui semblent n'avoir vu le jour qu'ici. Créé à l'instigation de puristes gris et irascibles, leur référence suprême était Phil Spector. Mais, sans s'en rendre compte, il tournait le dos à toutes les règles élémentaires qu'avait appliquées le maître de la pop pour conquérir le monde et les charts. Spector était avant tout un moderne, sûrement pas un passéiste. Dès lors, quelle pouvait être la pertinence d'appliquer en 1985 des règles édictées en 1961 ? Aussi la production de ces labels restait-elle confinée à un réseau de disquaires spécialisés ? Ces gens aimaient rester entre eux. vivait dans un camp retranché, entouré de fortifications obsolètes, et menait une existence réglée, en veillant au respect du dogme, avec le zèle des petits clercs de l'Inquisition. Mais quelquefois, ce genre de choses se produisait. Une mélodie pop passait entre les mailles du filet. Tel ce single, On ne peut plus underground, qui recelait presque clandestinement une ligne mélodique qu'aurait pu fredonner un Laurent Voulzy. Une mélodie grande onde, que ce groupe d'Angers semblait avoir écrite par hasard, presque à son corps défendant. Une mélodie pop trop grande pour eux, trop belle, qu'ils n'arrivaient pas tout à fait à étreindre. Cette maladresse était touchante. On se disait que des gens capables de ça n'étaient pas irrémédiablement perdus. Malgré lui, ce groupe qui se rêvait en rocker intégriste accouchait de cette chanson mélancolique qui semblait mue par sa volonté propre, qui s'échappait, s'envolait. J'entendis ce simple un soir dans le studio d'une radio FM qui recevait le groupe dont j'étais le guitariste à un moment précis où il devait correspondre à mon humeur neurasthénique. Je demandais son titre, je l'adoptais. Quelques mois plus tard, lors d'un concert à Angers, j'ai malheureusement rencontré les Knights. Nous partagions l'affiche avec eux. À l'inverse de leur mélodie, ils n'étaient guère tournés vers le monde. Ils ressemblaient à de vieux apparatchiks rock'n'roll. Paul Okas, figé dans une drôle de posture passéiste. Je les ai néanmoins congratulés pour la chanson. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils étaient comme gênés, s'excusaient, expliquaient que le résultat était beaucoup trop acidulé à leur goût, que cela ne se reproduirait pas. Ils ont tenu parole. Cela ne s'est pas reproduit. Après cette rencontre, je n'avais plus très envie d'écouter leur disque. Cela arrive parfois. Nous avons joué, sommes allés dîner, et puis nous sommes rentrés. Et j'ai pensé à autre chose.
Thank you. podcast.
Cliché 2. Le Vitellone. Bande son. Airport. Par les Motors. En italien, le mot Vitellone signifie petit veau et par extension, bon à rien. Le Vitellone évolue dans le monde de la virtualité et de la potentialité. Les plus doués ou les plus courageux finissent escrocs. Fellini, dans son film du même nom, décrit des Vitelloni vieillissants, empâtés, à la calvitie naissante. Ils vivent toujours chez leurs parents et assistent aux événements qui ponctuent leur quotidien sans y prendre part. Je n'aimerais pas revoir ce film aujourd'hui. Peut-être parce que je ne suis pas certain de pouvoir le regarder sans y retrouver un peu trop de moi-même. Comment en suis-je arrivé là ? Il convient, pour le comprendre, de passer en revue les diverses étapes de l'éducation d'un Vitellone. Petite 1. Le Vitellone refuse le combat. J'entre dans ce café baptisé par un propriétaire inspiré, l'Oasis. Il n'y a personne, hormis un simili rasta, installé au comptoir qui ironise sur mon badge de téléphone quand je passe devant lui. Un mot de plus et je te fume, motherfucker. Pourrait sembler une réponse appropriée en la circonstance. Pourtant, son assurance et les quelques années qui nous séparent m'incitent à plus d'indulgence. C'est sans importance. Je commande un diabolo menthe et avise un calendrier des postes sur le mur du fond. Cette fois, mon chronoscaf déréglé m'a conduit en septembre 1978. Mon regard revient sur le persifleur et j'assiste, impuissant, à un nouvel acte de barbarie de sa part. Il s'est approché du jukebox et s'apprête à sélectionner Airport. Je me souviens soudain pourquoi je n'aime pas ce bar. Situé à une rue du lycée, il est tenu par une sorte d'indique. Le bruit court en effet que le propriétaire prévient le proviseur lorsque les élèves consomment de l'alcool. Il les sert, encaisse l'argent, ensuite il décroche son téléphone et, au nom de l'ordre et de la protection des mineurs, demande à parler au proviseur. « Je ne fais que mon devoir, monsieur, rien que mon devoir. Je dois vous avertir qu'ils en sont à leur troisième bière. Oui, monsieur le proviseur, vous avez bien entendu, leur troisième. Je sais bien que je n'aurais jamais dû les servir, mais vous connaissez ma situation, une femme malade, les études de la petite à payer et un bar déserté par ses clients en raison de ma réputation de merde. Oui, bref, j'ai pensé que je ferais mieux de vous avertir. Compris, je les retiens jusqu'à votre arrivée. À tout de suite, monsieur le proviseur. Mes respects, monsieur le proviseur. » J'examine ce triste personnage en sirotant mon diabolo. Ses cheveux gominés, sa moustache fine, taillée, à la manière des séducteurs des années 30, ne me disent rien de bon. C'est pas le genre à payer sa tournée de diabolo, vous voyez ? Petit 2. Le Vitellone est pauvre. Pour retrouver un semblant d'humanité, il suffit d'aller un peu plus loin. Prendre la direction du lycée, longer l'entrée principale, suivre cette rue qui oblique brusquement vers la droite, passer sur le pont qui enjambe la départementale à quatre voies qui évoque tant les échangeurs routiers de la Motor City, et enfin se laisser gagner par l'enthousiasme en apercevant la Tour Biret. Cet établissement, ouvert au début du XXe siècle, mériterait d'être universellement connu et fêté. Vous pouvez tout y faire pour quasiment rien. Lire la presse, fumer, draguer, jouer au billard, prendre le soleil en terrasse, faire un somme, manger un morceau, etc. Après leur service, les chauffeurs de bus viennent y draguer les fillettes délurées du lycée. Ils y parviennent relativement facilement car, contrairement à nous, ils sont en mesure de leur payer des verres. Ils nous paraissent excessivement riches, à nous qui sommes perpétuellement en quête de la prochaine Marlboro. Alors, nous nous débrouillons. Dès que nous repérons un type en uniforme bleu, assis à côté de l'une de nos copines, nous approchons et lui demandons une cigarette. Un homme en train de draguer n'a jamais envie de passer pour un radin. Une autre technique consiste à s'introduire dans un groupe de fumeurs et à déclencher leur hilarité. Pendant que tout le monde rigole, nous demandons une cigarette à celui qui rit le plus fort, avant qu'il n'ait repris son souffle. Machinalement, il saisit son paquet et nous le tend, car le rieur est sans défense. Petit 3. La page préférée du Vitellone et celle des petites annonces. Après le déjeuner, nous allons lire les petites annonces de Libé, notamment les messages ayant trait au sexe. Certains sont de petites perles de crudité et de drôlerie, comme ceux envoyés par ces routiers cherchant de jeunes passagers pour se livrer à de décadentes bacchanales sur des aires de repos d'autoroute. Associer le sexe à l'humour est une découverte pour moi qui prend ces questions très au sérieux. Je dois dire que je ne comprends rien aux filles. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne me font pas rire du tout. En même temps, on se rend bien compte que les rédacteurs de ces annonces ne vont pas crouler sous les réponses. Les frêles parois de Zing, de nos Vespasiennes restant, pour quelques années encore, un média plus efficace parce que mieux ciblé, en attendant l'avènement d'Internet. La société offre alors peu de place aux sexualités déviantes. Elles apparaissent, au mieux, comme des pratiques exotiques ou ésotériques, quand elles ne tombent pas sous le coup de la loi. D'où nos rires incrédules et un peu gênés. Après ça, nous restons un moment désœuvrés, mais cela ne dure pas. Nous décrochons un extincteur, nous postons en haut de l'un des escaliers qui mènent aux salles de cours et aspergeons de gaz carbonique les profs qui tentent de gagner les étages supérieurs. C'est un des bons côtés de l'école, ce genre de joie simple. Petit 4. Le vitellone est un fief et cancre. À mon entrée en seconde, j'avais pourtant décidé de m'accorder une dernière chance. Pendant quelques temps, installé au premier rang, à côté des bons élèves, j'ai réellement essayé d'effectuer une année scolaire normale. J'ai attendu de voir l'effet que produirait sur moi la fréquentation des meilleurs éléments de la classe. Elle n'en produisit aucun. J'ai écouté les premiers cours, puis j'ai vite laissé tomber. Je me souviens que la prof d'histoire nous vantait les bienfaits de la révolution iranienne. Comme elle, beaucoup de gens bien intentionnés avaient cru à cette révolution des mollahs. Vu de très loin, de France par exemple, ça pouvait sembler un bon plan pour l'Iran, cette histoire d'ayatollah et de révolution coranique. Car, en principe, une révolution c'est vachement bien. Cela produit du bonheur, de la démocratie, et ça perturbe un peu les plans de croissance des multinationales. Mais les ayatollahs semblaient tout ignorer des principes de base d'une révolution réussie. En tout cas, c'est ce que laissaient entendre les premiers réfugiés politiques iraniens qui parvenaient jusqu'à nous. Ils racontaient une autre version de l'histoire, un peu moins enthousiasmante celle-là. Après ça, assez logiquement, les regards se sont détournés du mauvais élève iranien, incapable de se conformer aux doux rêves qu'avaient conçus pour lui les intellectuels occidentaux. À présent, c'était à mon tour de fomenter une petite révolution à usage privé. Tendance nihiliste, cette fois. J'ai donc peaufiné diverses techniques propres à générer le bordel et à rendre les situations incontrôlables. Ces méthodes sont encore employées de nos jours dans certains établissements scolaires. Je dois encore garder quelque part l'enregistrement d'un cours d'histoire assez réussi. À la réécoute, la première minute ressemble à une entrée en matière normale. Les élèves s'installent. Le professeur salue la classe et annonce le sujet du jour. Ensuite, tout n'est plus que chaos et destruction. Je crois pourtant que la prof continue à parler pendant les 55 minutes réglementaires. Par intermittence, je distingue sa voix sur la bande, mais je ne pourrais décrire ses réactions car une partie du happening consiste à lui tourner le dos et à fixer obstinément le mur du fond. En français, les problèmes étaient d'un autre ordre. La prof cultivait un de ses talents naturels qui consistait à rendre ennuyeux les grands auteurs du patrimoine. Devant l'ennui suscité par son approche de la littérature, je me vis contraint de reculer de plusieurs rangs et de lire Rock'n'Folk pendant ses cours. Un jour, irrité par tant de maladresse et d'incompétence, je lui demandais si on pouvait espérer travailler un jour sur des auteurs contemporains. Des mecs un peu groovy, comme Alain Pacadis, Yves Adrien, Philippe Manœuvre, Philippe Garnier ou Patrick Hudlin. Elle me dévisagea un moment avec hébétude, puis retourna à son exercice favori, assassiner Boris Vian. Petit 5. Le vitellone n'écoute pas de jazz. Au moins, ne ressemble-t-elle pas à un personnage de bande dessinée, comme son homologue d'une autre classe qui, avec son costume de velours côtelé, sa barbe broussailleuse de poète beat, sa pipe et son visage rond, évoque un personnage de Bob de Moore. C'est un fondu de jazz. Il anime un club dont les douteuses activités se tiennent le vendredi. À l'heure du déjeuner, en compagnie de quelques élèves appliqués, il déchiffre de vieilles grilles polycopiées. Je m'y rends de temps en temps, mais ces partitions chargées d'accords bizarres sont par trop dissuasives pour que je songe à m'emparer d'une guitare. J'assiste plus volontiers, en fin d'après-midi, aux séances d'écoute commentées. Le poète beat, il survole l'histoire du jazz et de ses interprètes. J'apprends au passage qu'il y a deux catégories de musiciens, ceux qui travaillent le son et ceux qui travaillent l'harmonie. Un soir, il nous parle d'un disque qu'il présente comme sulfureux. On va y entendre des musiciens qui ne font pas tout à fait partie de la scène jazz. Ils utilisent des instruments électriques, voire électroniques, et les manipulent de façon bien étrange. Son impact doit avoir été grand pour qu'ils se sentent obligés de le mentionner. Après une dernière mise en garde, il en passe quelques extraits. Sur la pochette, je lis ces mots. Beaches Brew. Par la suite, nous n'entendrons plus de disques postérieurs à 1960. Mon flirt avec le jazz n'ira guère plus loin. Le sectarisme et le conservatisme de ces prosélytes français constituent un repoussoir des plus efficaces. Petit 6. Le Vitellone n'a pas de patrie. Mais en cette année 1979, ce qui restera comme une lecture fondatrice fut cette interview de Keith Richards, parue au mois de mars dans Rock'n'Folk. Avec ce sens de la formule qu'on lui connaît, il parlait de son goût pour le reggae et pour les armes à feu, du procès de Toronto, des descentes de flics dans ses différentes demeures. Il y déployait sa légendaire mauvaise foi, cette façon de réécrire l'histoire à son avantage compte en commun tous les grands escrocs, qu'ils soient artistes ou politiciens. Il décrivait sa vie comme une fuite en avant, une course sans fin entre New York, Kingston et Paris. Il parlait aussi d'un endroit où il pouvait se rendre de temps en temps lorsqu'il avait besoin d'une chemise repassée, d'un bain chaud ou d'une nuit de sommeil. À la fois stand de tir et terrain vague, où les locataires de passage avaient pris l'habitude d'oublier leurs seringues et leurs petites cuillères, ce lieu était pour lui l'équivalent de ce que nous avons coutume d'appeler un foyer. Au fil de l'interview se dessinait son existence d'apatride de luxe. Et cela avait l'air foutrement excitant. Je décidais alors que mon pays serait partout où m'attendrait une chemise propre et un lit. Depuis, je n'en ai pas choisi d'autre. Petit 7. Le Vitellone n'est pas sportif. Il y avait autre chose d'embarrassant et d'obligatoire à l'époque. Le sport. Comme vous, je n'ai jamais trop aimé me hisser le long d'une corde lisse pour atteindre un plafond et en redescendre le plus vite possible. Ni faire le tour d'un terrain de foot au pas de course. Ni exécuter tout exercice brutal dont on ressort essoufflé et rompu. On a aussi tenté de m'apprendre pourquoi il existait autant de variétés de ballons et autant de règles pour s'en servir. Mais je n'ai pas tout retenu. C'est par un bel après-midi de printemps, pendant un cours d'éducation physique, que je craque. Je demande à parler à notre prof. Nous sommes dans un bois, et alors que nous pourrions nous asseoir sur la mousse fraîche et fumer un clope tranquillement, elle tient absolument à parcourir une piste jalonnée tous les 150 mètres d'un arrêt élongation, pompe ou abdos. Il est temps de négocier. Je lui explique calmement que mon but dans la vie n'est pas de ressembler à un gros gymnaste musclé, car c'est beaucoup trop laid. Le risque est réel que j'acquière malgré moi et en dépit de tous mes efforts pour rester malingre, une musculature de rêve. Le fond du problème est là. Je me bats pour le droit de dire non au sport. Le reste de la classe nous a rejoints et fait cercle autour de nous. Le débat porte sur deux conceptions opposées de la séduction masculine. « Tu te crois sans doute très malin et très attirant », commence-t-elle. Je hausse les épaules, la croyant incapable de discerner le beau du laid. Sans attendre, elle décrit tout ce qui ne colle pas chez moi. Trop maigre, éternellement avachi, torse chétif, absence de muscles dignes de ce nom, et j'en passe. Jusque-là, je me reconnais assez bien. Elle énumère ensuite les caractéristiques physiques que doit posséder un garçon pour espérer séduire une fille. Il s'avère que je suis très loin de cet idéal. Elle conclut en annonçant que nous allons maintenant reprendre le cours normal de nos exercices et retourner patauger sur ce joli chemin boueux afin de finir l'heure de cours écarlate et essoufflée. Sa victoire est totale. À noter que le meilleur sportif de la classe est un garçon qui prend de l'héros de temps en temps. Déjà à cette époque, les sportifs sont dopés. Petit 8. Le Vitellone n'accepte pas de perdre. Le Vitellone, au cours de ses années d'apprentissage, a cherché à comprendre le monde qui l'entourait. Pour ce faire, il a lu et observé. Mais alors qu'il aurait dû en tirer comme conclusion la certitude qu'il était vain d'espérer que quelque chose se passe, il a continué d'attendre. Et ce soir, sur le quai de la petite gare, il scrute l'horizon. Beaucoup prétendent qu'il ne passe plus jamais de train sur cette voie. Il sait qu'il se trompe. Que dans peu de temps, le sifflement d'un rapide va retentir et que le sol va trembler. Il entendra les freins crisser et peiner pour immobiliser les quelques centaines de tonnes d'acier brûlant. Au milieu d'une fumée infernale, il distinguera un wagon qui s'arrêtera devant lui. Une porte s'ouvrira. Le silence retombera quelques secondes et il montera dans le compartiment vide. Juste à temps, car une petite secousse le préviendra que le convoi vient de reprendre sa route. Tandis que sonneront 12 coups au clocher du village, il se penchera par la fenêtre et, à la faveur d'une longue courbe, découvrira le comportement étrange de la créature hirsute et bondissante qui occupe la place du chauffeur. Penchée au-dessus du foyer ouvert de la chaudière, le visage rougeoyant, elle se tournera dans sa direction et le saluera. Puis, incapable de se contenir plus longtemps, elle lâchera un rire de dément. Ce n'est qu'à ce moment que le Vitellone comprendra qu'il vient enfin de monter à bord du Mystery Train. Well, I help her with her baggies, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really wants me. And it's getting me so. It's getting me so. I'd be much stronger. For the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane way down the runaway. And I can't believe that she really knows me. And it's getting me so. It's getting me so. It's getting me so. It's getting me so.